I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Clémence Guédan. Retrouvez-moi dans Wheel of Series avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi pour une nouvelle série consacrée au jeu de la dame, The Queen's Gambit. À retrouver sur wheelofcinema.bnpparibas et sur vos applications de podcast.
Copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit:
t'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble, on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi, aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver une équipe réduite avec Marie.
Salut.
Et Julien.
Salut Clémence.
À la technique, prêt à dégainer ses jingles et à me faire de grands signes quand on déborde un peu trop sur le timing. Bonsoir Alain.
Bonsoir Clémence.
Et on dit merci à LaTeX pour l'habillage sonore. Cette semaine, un rossignol, un merle et de la violence. Beaucoup de violence. On va parler de The Nightingale. On est en 1825 dans ce qui deviendra plus tard la Tanzanie. Oui, mais à l'époque, l'île qui appartient à l'Australie est sous domination anglaise. On y découvre Claire Carroll, jeune bagnarde irlandaise qui décide de traverser le bush accompagnée de Billy, un esclave aborigène. Son but, retrouver les soldats et officiers qui l'ont violée et ont assassiné son mari et son bébé sous ses yeux. Et bien sûr, se venger. Ce film, c'est le second long-métrage de Jennifer Kent, qui avait été largement salué pour son Mr. Babadook, sorti en 2014. Croulant sous les propositions après ce premier succès, la réalisatrice australienne avait préféré se concentrer sur l'écriture et la réalisation de ce drame. Le film commence à dater un peu, puisqu'il a été tourné en 2017 et a été dévoilé pour la première fois au public à la Mostra de Venise en 2018. Jennifer Kent a d'ailleurs remporté le prix spécial du jury à cette occasion. Après l'angoisse et l'horreur dans Mr. Babadook, on quitte le surnaturel pour des atrocités bien réelles. D'ailleurs, Jennifer Kent le dit elle-même, rien de ce qui se passe dans ce film n'est fictionnel, les personnages le sont, mais tout y est vrai. Alors est-ce que ce changement de registre est réussi? Qu'en pensent nos chroniqueurs? Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi, Marie?
Moi je vais dire détournement.
Détournement.
Violence, c'est pas très inspiré.
Détournement.
Tu fais la tronche déjà, Clémence. Mais ne fais pas la tronche encore, j'ai pas parlé et tout. Quoi.
Je ne ferai
bien.
Pas la tronche.
Tu fais la moue, elle fait la
J'analyse.
Moue. Vous ne la voyez pas, mais elle fait la moue.
Et pourtant, on est ses chroniqueurs préférés.
C'est vrai. Pareil, ouais. Elle m'a dit ça à tout le monde.
C'est vrai, chouchou.
Ouais.
On n'y croit
pas.
Moi, j'y crois plus.
Ouais, j'y croyais au début, mais j'y crois plus.
Ouais, c'est fini.
Mais non, tu seras toujours ma préférée. Allez, c'est parti. Alors. Violence, Julien, bon, on voit un petit peu où tu veux en venir par là. Marie, peut-être on va commencer avec toi.
Moi, j'ai dit détournement parce qu'en fait, le film est un détournement du Rape and Revenge, en fait. Alors, bon, évidemment, de toute façon, tu l'as dit dans ton intro, et puis ça arrive dès les premières minutes du film. Je pense que c'est à peu près les pires scènes de viol que j'ai vues dans un film. À la base, le Rape and Revenge, c'est un genre qui est quand même très voyeur, très complaisant par rapport à ces scènes de viol et qui en contrepoint établit une figure un peu de final girl, vengeresse, qui va aller retrouver ses bourreaux pour les tuer. Et en fait, elle part sur ça au départ, mais elle, déjà les scènes de viol sont d'un réalisme horrible, elles sont hyper bien mises en scène, c'est des scènes où on voit rien, on voit pas un centimètre carré de peau, on voit à la limite une épaule au maximum je crois, et c'est pourtant les plus traumatisantes que j'ai vues.
Tu vois des détails quand même, avec Sam Calfin, ouais. Je sais qu'il est en train de, je suis désolé hein, c'est un peu cru, mais qui remet sa bite, en fait ouais, tu comprends ouais. Ça.
C'est non mais justement, c'est qu'en fait c'est des trucs qui sont suggérés, mais tu vois pas grand chose, et en fait t'as le regard de je sais plus comment s'appelle l'actrice, et j'aurais pas écorché son nom, mais voilà, t'as son regard. Enfin, je la trouve incroyable tout au long du film, et t'as ses plans sur elle, t'as des plans subjectifs quand elle voit le plafond, et c'est vraiment, enfin tu le vis avec elle, c'est très très dur, et il y a plusieurs scènes de viol, donc elles sont toutes aussi difficiles les unes que les autres, et en fait donc moi je me demandais où elle voulait en venir, parce que c'est quand même assez déroutant de voir autant de scènes de violence s'y rapprocher, et dans tout le début du film, et à un moment je me suis dit bon bah ça part sur du rape and revenge, à un moment donc elle tue un des soldats, celui qui a tué son bébé, et c'est vraiment une confrontation comme dans les rape and revenge, comme dans le slasher où la final girl tue son agresseur ou le boogeyman, avec là les scènes sont, enfin les images sont inversées, la mise en scène est inversée par rapport aux scènes de viol où là c'est elle qui est sur lui, c'est elle, dans les scènes de viol elle est filmée en plongée, là elle est en film en contre-plongée, c'est elle qui le pénètre, comme dans, c'est un trope du slasher et du rap and revenge, elle le pénètre avec son couteau, donc c'est la scène de viol inversée et tout, et je me suis dit bon ok ça part sur ça, j'étais un petit peu sur ma faim, je me suis dit bon si c'est ça c'est pas hyper intéressant, moi ça m'intéresse pas trop de voir des, après on nous dit c'est des personnages féminins forts parce que c'est une femme à qui on colle des caractéristiques masculines et on en fait une Sarah Connor ou ce genre de truc, moi ça m'intéresse pas beaucoup, et en fait c'est pas du tout ça, elle poursuit ses agresseurs.
Ouais, spoiler.
Non, on le sait depuis le début qu'on spoil, mais voilà, donc elle poursuit ses agresseurs, elle finit par les retrouver, et quand elle se retrouve face à eux, en fait, elle n'arrive pas à lui tirer dessus, en fait, c'est un personnage qui a des failles, elle a ce premier meurtre, en fait, la hante, elle a des scènes de cauchemars, enfin, il y a des scènes de cauchemars, elle a des cauchemars toutes les nuits quand elle repense à ça, et du coup, le film part sur autre chose, il part sur sa relation avec Billy, cet aborigène, en fait, c'est un petit peu la convergence des luttes, en fait, c'est des gens qui s'aperçoivent qu'ils sont tous les deux opprimés, parce qu'en fait c'est aussi une histoire d'oppression, c'est une histoire sur la fondation de l'Australie qui a une histoire peut-être qu'on connaît un peu moins en France, parce que c'est un pays assez lointain
et qu'ils connaissent pas non plus là-bas, hein. c'est une des raisons du combat du film aussi,
ouais
hein.
Ouais, parce que c'est très, en fait c'est une histoire, quand l'Australie a été colonisée, c'était une colonie pénitentiaire, donc en gros c'était peuplé que de soldats et de bagnards, et donc ce personnage féminin c'est une fille qui a fait, je sais pas, 7 ans de prison et qui essaie de faire sa vie, et en fait on voit qu'elle, elle est opprimée parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est une ancienne prisonnière, mais elle-même c'est l'oppresseur, parce qu'au départ elle traite très mal Billy, qui est lui-même un aborigène, qui est tout en bas de l'échelle, mais on voit que même les soldats entre eux il y a une hiérarchie et qu'ils sont tous en train de s'opprimer les uns les autres, et en fait c'est vraiment un film de classe, en fait, qui montre en fait c'est pas des personnages fonction, juste le méchant violeur manichéen, c'est vraiment il y a un jeu comme ça de relations entre les personnages. On voit même le personnage du petit gamin qui est élevé au rang d'homme parce qu'on lui donne un flingue, mais au final, encore spoiler, mais voilà, il se fait buter. Enfin, c'est hyper dur.
Et surtout sur qui on travaille une vraie frustration aussi. C'est ça qui est intéressant en fait dans ce personnage aussi. Quoi.
Mais du coup, ouais, voilà, c'est tout un truc en fait que j'avais pas vu venir, et je trouvais que toute la deuxième partie, voilà, cette course poursuite est plutôt intéressante. Et donc il y a aussi la relation qu'elle crée avec Billy, donc qui est son guide, et qui montre aussi toute cette partie de l'histoire aborigène, parce que c'est quand même, moi je suis allée en Australie, c'est un truc dont on parle, mais dont on parle pas. On te dit en Australie que la culture aborigène a été perdue, leur langue a été perdue. T'es genre, oups. Hop, elle était là, pouf, on l'a perdue. On te dit pas, ils essaient aujourd'hui de faire un peu amende honorable, ils essaient de mettre des représentants, les quelques représentants qui restent et qui sont pas alcooliques, parce que c'est un très très gros problème là-bas, mais ils essaient d'en mettre quelques-uns dans les conseils locaux, dans les trucs, pour avoir leurs décisions sur des choses et tout. Mais c'est quand même très très compliqué de faire ça aujourd'hui et d'essayer de se rattraper comme ça. Et je pense que ce film participe de ce truc-là et essaie de mettre ça en lumière. Et je trouvais ça intéressant. Il y a une scène intéressante où ils croisent un couple de personnes âgées qui les amène chez eux pour manger. Et lui, Billy, mange par terre. Et le mec finit par dire « Non, mais viens manger avec nous à table. » Et juste, il se met à pleurer parce que j'imagine que c'est la première fois qu'il mange à table avec des blancs. Et il y a toutes des scènes comme ça qui sont, que je trouve assez intéressantes et qui m'ont un peu étonnée. Je ne pensais pas avoir ça dans ce film-là.
Mais c'était une vraie volonté de la part de Jennifer Kent, hein, qui est donc australienne elle-même. Le film, il faut savoir qu'il a été produit en collaboration avec la Tasmanian Aboriginal Elders, donc les anciens de Tasmanie, anciens aborigènes de Tasmanie, qui eux-mêmes confirment que tout ce qu'on voit, tout ce qui est dépeint dans le film est honnête et nécessaire. Et c'est, voilà, c'est une version tout à fait réelle de leur histoire, ouais. Et qu'elle mérite d'être racontée.
Et ils ont, je sais qu'ils ont travaillé avec des linguistes pour essayer de recréer la langue, parce que pareil, c'est une langue qui a un peu disparu et dont on n'a que des bribes aujourd'hui.
Absolument.
Et son guide, enfin, gros spoiler aussi là, mais c'est censé être le dernier représentant en fait de cette tribu-là en fait. C'est ça aussi, c'est là aussi où il y a une charge en fait symbolique qui arrive sur les personnages petit à petit.
Est-ce que ce que tu dis sur les langues, c'est que effectivement il y a le Palawakani, donc un dialecte aborigène aujourd'hui disparu qui a été recréé par des linguistes pour le film, exprès pour le film, à partir d'enregistrements et de documents historiques. Et puis il y a aussi le gaélique qu'on entend régulièrement, puisque elle, le personnage de Claire, elle est irlandaise. Et finalement, ces deux langues sont toutes les deux synonymes d'oppression.
Oui, c'est leur, c'est le, ce qui les rattache à leur culture et elle, elle parle en gaélique avec son mari et oui, c'est un peu un symbole de résistance entre guillemets et en tout cas d'individualité qu'on essaie de leur supprimer. Et il y a aussi cette métaphore sur bon, c'est pas forcément hyper fin, mais il y a cette métaphore sur donc elle, c'est le nightingale, je crois que c'est le rossignol.
Le rossignol.
Lui, je sais plus quel oiseau.
Lui, c'est le merle, c'est le blackbird.
Ouais, voilà. Et donc il y a toute cette métaphore sur ouais, les oiseaux en cage, machin. Bon, c'est pas forcément hyper fin, mais bon, voilà, je trouvais ça pas mal aussi.
C'est surtout un point d'accroche. Ils disent vraiment les côtés oiseaux en cage.
Non, mais c'est ce que tu comprends plus ou moins, d'accord. Tu vois. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça, mais voilà.
Et toi, Julien, alors, qu'est-ce que tu en
penses? J'aime beaucoup. Moi, j'aimais bien déjà le précédent film de Jennifer Kent, puisqu'on est sur Capture. J'avais fait une interview en fait d'elle à l'époque de Babadook, et elle, vous pouvez la retrouver sur Capture en fait, l'entretien. Et je renvoie pas simplement pour m'autociter, mais parce que je crois que c'était en 2014 hein, que le film était sorti,
2014,
c'est ça.
Ouais.
Et à la fin de cette interview, elle me parlait déjà de ce projet en fait. Donc j'ai ce témoignage-là, j'ai cette preuve-là en fait qui vient du site de Capture. Et c'est un truc qui lui tenait à cœur. Et ce qui était assez marrant, moi, ce qui m'a frappé en fait quand je l'avais rencontré cette dame, c'est qu'elle a un truc hyper affable et cool en fait quand tu la vois. Et en même temps, tu sens que ça boue en fait là-dessous. Tu sens que ça boue. Tu sens qu'il y a un truc qui a besoin de sortir. Il y a un truc voilà comme ça chez elle et ça se sent en fait dans ses films. Ce qui me plaît en fait, c'est que alors elle fait des, t'as parlé du Rape and Revenge, en fait elle se défend de ça en fait. Elle dit non, moi je veux pas faire un Rape and Revenge, je sais qu'on a affilié mon film à ça et tout.
Non, mais c'est pour ça que je dis qu'il est vraiment détourné.
C'est ça, exactement. Mais c'est surtout que en fait moi, ce qui m'intéresse chez elle et ce qui m'intéresse vraiment dans celui-là, parce que justement, c'était là où on pêchait à mon sens un peu Babadook, c'est qu'elle n'a pas peur d'aller dans le genre. C'est-à-dire que le film s'assume aussi là-dedans, je pense, hein, pour moi. Hein, y a une façon de travailler l'archétype, par exemple, de travailler le road movie, de travailler les fonctionnalités des personnages entre eux, c'est-à-dire de retrouver en fait certains codes. Sauf qu'elle a réussi à investir tout ça d'une une réelle humanité, moi, je trouve. Je trouve que le film, par exemple, il est vraiment touchant, vraiment émouvant. Et surtout de ramener en fait ces archétypes, ou en tout cas, enfin c'est pas des archétypes d'ailleurs, mais en tout cas ces personnages à ce qu'ils sont censés représenter, c'est-à-dire à l'intérieur de ce système en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas tant de coupables et de victimes en fait que sur un système en fait qui conduit finalement à ça en fait. Et c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire que elle réussit sur à peu près tous, parce que c'est vrai que bon, sur le personnage joué par Sam Claflin, j'ai toujours un nom à prendre.
Claflin,
c'est ça, qui est un choix assez étonnant d'ailleurs, puisque c'était un peu le beau gosse en fait des films young adults jusqu'à présent, j'ai l'impression en tout cas, moi, comme ça que je le percevais, ce gars. Mais lui, c'est vrai que tu trouves un peu moins d'excuses sur les autres, et encore, si tu sens la frustration du mec, tu sens tout de suite ce gars élevé sur des codes anglais, un code de l'honneur en fait très très strict, et qui est dans une frustration totale. Tu sens tout de suite cette perception du monde totalement vicié qui a permis ce type de drame là, et malgré tout en fait elle arrive à à détourner en fait tout ça en fait petit à petit, et tous les personnages, l'arc à ce niveau-là le plus évident c'est vers ce qui est en fait son homme de main, qui est le sergent en fait, où finalement t'as presque en fait de l'empathie, enfin moi j'ai presque eu de l'empathie en fait pour ce personnage qui est pourtant ignoble quoi au bout d'un moment, mais où tu te dis c'est un pauvre mec en fait, il est complètement, il aurait été ailleurs, ça serait pas passé comme ça en fait. C'est-à-dire que c'est le contexte, c'est pas l'homme en lui-même en fait qui pose problème. Vous voyez, je sais pas si je suis très clair dans ce que je veux dire quoi. Mais en tout cas c'est un des trucs que j'ai ressenti. Et le truc aussi qui m'a beaucoup plu, c'est que finalement en fait j'en ai pas vu en fait des films comme ça. Ça m'a fait beaucoup penser à un film de Geoff Murphy des années 80 qui s'appelle Hutu, et qui un peu de la même façon en fait parlait de la, pour le coup c'était un événement historique clairement acté, qui était une rébellion des Maoris en fait en Nouvelle-Zélande. Et c'était une des choses moi qui m'intéressait, c'est que déjà ces pays des antipodes, comme moi j'y suis pas allé contrairement à Marie, moi j'ai une vision très ethnocentrée en fait de ça, c'est-à-dire que déjà ça me fait voir une face de ces pays-là que je ne connais pas, en l'occurrence cette Tasmanie-là qui est un mix curieux entre de la jungle et puis une Écosse, enfin ça a été tourné in situ pendant l'hiver et tu sens le froid, tu sens l'humidité et tout par exemple.
C'est des particularités du bush.
Mais oui, c'est tout à fait étrange en fait, c'est tout à fait étonnant, tout à fait atypique. Et puis évidemment, tout le monde sait que ces peuplades-là, elles ont été exterminées et tout, mais quel film te le raconte ça en fait? C'est ça, je me rappelle, j'avais eu la même réflexion dans 12 Years a Slave, en fait, de McQueen, où je m'étais dit, quel film m'a vraiment raconté ce que c'est d'être un esclave? Et ce que c'est de vivre ça? Et là, c'est la même chose, en fait. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, en fait, des trucs où les mecs voient tout à coup croisent une peuplade indigène, en fait, dans la jungle, puis le mec décide de prendre une des femmes qui est là, juste comme un jouet en fait. C'est-à-dire que tu l'as lu dans les livres d'histoire, mais viscéralement tu sais pas ce que ça représente et ce que c'est en fait là-dedans.
Et puis cette scène en plus elle est d'une violence, elle est incroyable. Avec son enfant, après ouais, les hommes qui vont à sa suite.
C'est terrible en fait.
C'est hyper dur.
Et je disais aussi violence, qui est hyper basique hein, comme mot, mais c'est aussi le truc qui me plaît, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur ces personnages qui sont prisonniers d'un système et tout, c'est qu'il y a un autre truc qui me plaît beaucoup et que je trouve là, encore une fois, elle cite beaucoup Requiem pour un massacre, le film russe absolument traumatisant quoi. Et alors elle est pas du tout à ce niveau-là hein, quand même. Hein. On n'est pas sur la même catégorie. Mais il y a un truc aussi sur la porosité de la violence en fait que j'aime bien aussi là-dessus. C'est-à-dire de te rendre compte que c'est incroyablement difficile d'arrêter ça en fait, ce cycle vicié en fait, vicieux plutôt.
Il y a cette espèce d'effet domino.
Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant en fait chez ce qui fait d'elle un personnage d'héroïne, ce contre quoi elle lutte, c'est qu'elle est empathique en fait. C'est sa seule faille pour accomplir sa vengeance, mais c'est le seul truc qui va lui permettre en fait au bout d'un moment de se sortir en fait de tout ça quoi, et de donner de l'espoir en fait. Ça donne pas vraiment d'espoir comme film, mais voilà. Et moi le dernier truc que je voulais dire aussi peut-être, c'est que je suis un peu déçu par le dernier acte. Pas dans sa globalité, mais sur des éléments de détail. Marie a parlé de la scène chez le couple de blancs âgés. Je trouve qu'à ce moment-là, par exemple, il a une ligne de dialogue où il dit « c'est mon pays, c'est ma maison ». Et je trouve que c'est en trop. T'avais pas besoin de ça. Tu l'as compris à ce moment-là. Enfin, tu comprends pourquoi il chiale, tu comprends... Il y a deux, trois petits trucs comme ça sur la fin, t'as l'impression qu'elle stabilote un peu certains trucs. Et je trouve ça dommage parce que je trouve aussi que c'est un film qui est joliment écrit à l'économie sur plein de trucs. Je cite un exemple spécifique et après je vous laisserai la parole, mais par exemple dès le début elle se balade avec son bébé pour aller à son boulot de cette espèce de cahute qui lui sert de maison, et elle a un couteau et il n'y a rien en fait avec ce couteau. On t'explique pas pourquoi elle a un couteau, il n'y a pas de payoff vraiment avec ce couteau, il n'y a rien en fait, mais juste elle se balade avec son bébé avec le couteau, et là tout de suite intuitivement tu comprends la situation en fait de cette nana. Elle va au boulot, elle a son bébé, elle a un couteau. Et tout de suite, tu comprends, t'es planté en fait dans le décor, dans l'ambiance, dans le contexte dans lequel elle doit se battre pour survivre, et que je trouve très, très fort.
Voilà. Bah effectivement, en tant que personnage qui a été... au début de l'histoire, en fait, elle vient de terminer de purger sa peine. Et tu te dis que en tant que bagnarde, elle a dû déjà vivre des trucs moches avant.
Oui, c'est sûr. C'est déjà un personnage blessé et tout. C'est aussi un truc, c'est pas si fréquent que ça, de voir un personnage qui est très juvénile, en fait, dans son visage, où t'as l'impression qu'elle a beaucoup de vécu, quoi. Mais ça, c'est pareil. Ça a été un tournage apparemment très compliqué, quoi. Vraiment très, très dur. Ça a été tourné dans la continuité du script. Et ça a été vraiment très très pénible et ça sent. Enfin, moi je trouve que ça sent quoi.
Elle disait que pour se préparer, elle avait beaucoup travaillé avec des. Enfin, elle avait rencontré des personnes qui s'occupent de femmes qui ont subi des violences et tout ça pour se mettre dans son rôle.
Des trucs de post-traumatique.
Ouais, et tu vois qu'il y a une vraie préparation et. Parce qu'en fait, comme tu disais, il y a une économie de mots. Il y a certaines scènes où tu comprends le deuil, l'absence, le manque. Tu vois, les scènes où elle a des montées de lait, des trucs comme ça.
Ah,
où,
c'est super ça.
C'est hyper bien trouvé en fait. Et, et je me dis, c'est sûrement parce que c'est une femme qui a écrit le scénario.
Exactement,
en fait, parce que c'est un truc que des mecs auraient pas. Enfin, tu donnes le même sujet à un mec, je pense que. Enfin, à une autre femme aussi, hein, mais je pense que c'est un truc hyper réfléchi. Et enfin, je comprends pourquoi elle voulait vraiment faire ce film-là. Et enfin, il y a plein de trouvailles comme ça que je trouve incroyables.
Elle a plus son enfant, elle a des montées de lait qui, donc, forcément, t'imagines, lui donne peut-être un peu de fièvre et tout, parce que tu peux avoir des engorgements qu'elle est obligée de cacher.
Et puis, c'est douloureux, ça lui fait
surtout,
très mal.
Voilà, extrêmement douloureuse, quoi, tu vois. Et c'est un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Je cite les poètes, moi, monsieur Alain Mercier. Je vois qu'il me regarde avec un œil torve.
Non, c'est vrai que toute cette violence dans le film, ça a fait réagir hein, lors de la projection du film au Festival de Sydney.
Ah, c'est difficilement soutenable, c'est sûr.
Il y a
sûr.
Une trentaine de critiques qui se sont levées et qui ont quitté la salle après la première demi-heure en disant...
Ouais, à Venise aussi, le film a été sifflé. Et je crois que d'ailleurs, le journaliste qui a fait ça s'est excusé après, ce qui n'arrive pas souvent. Mais ouais, ça a été...
Mais ça, c'est un truc que j'aime bien chez elle aussi, c'est qu'elle a pas... C'est un film qui est bien filmé, qui est plutôt bien photographié et tout, mais elle cherche pas du tout à être élégante. C'était ça aussi dans Babadook aussi. C'est qu'elle citait, par exemple, dans Babadook, elle citait le cinéma expressionniste allemand des années 20, mais c'était sans affaîtrie. C'est-à-dire que s'il faut être crade et s'il faut filmer un truc, elle y va, quoi. Elle le filme. Et autant sur les scènes de sexe, elle joue la carte de l'évocation, elle le joue. Moi, je suis complètement d'accord avec Marie. C'est hyper... frappant, enfin moi c'est waouh.
Moi c'est des scènes qui m'ont physiquement fait mal. En fait, il y a peu de films qui me font réagir physiquement et j'étais pas bien pendant toute la première demi-heure.
Mais
quoi.
Par contre, sur les scènes de violence, mais la nana elle y va à fond quoi. Je veux dire, les pieux et tout, tu les vois, elle a pas peur en fait. S'il faut y aller, elle y va quoi. C'est ça aussi ça que j'aime beaucoup. C'est ça aussi qui fait que c'est pas un film de. C'est pas, pour moi, c'est pas, elle tombe pas dans les travers du film de festival ou du film à prix. Et d'ailleurs, c'est pas un film qui a. On voit que même dans son exploitation, je suis pas sûr qu'il rentre dans aucune des catégories. C'est-à-dire que
Nous ici, on a mis beaucoup de temps avant de le voir. Tu vois, c'est pas un truc. Moi, je pensais qu'il allait arriver vite en festival, qu'on allait pouvoir le voir assez vite en 2018-2019. Et entre le fait qu'il a mis du temps plus le Covid et tout, au final, on se le retrouve bazardé maintenant, alors qu'on aurait pu le voir il y a quelques années en salle. Quoi.
Et moi, je suis content. C'est Condor, je crois, qu'il le sort en
tout
France.
Tout à fait. Il va sortir en DVD.
Et c'est super. Hein, moi, j'adore. C'est un super éditeur. C'est super personne à Condor et tout. Mais tu vois, par exemple, la jaquette qu'ils mettent, tu sens que les mecs se disent ah, on va avoir du mal. Moi, quand tu vois le truc, tu dis ah, mais c'est une va-t-en-guerre, trucs. Il y a des drapeaux qui brûlent et
c'est
tout derrière.
C'est pas du tout le film.
Et en fait, je l'ai vu, la jaquette, je me dis ah ouais, donc ils se disent qu'ils vont avoir du mal à le vendre pour ce qu'il est. Et c'est pas ça, en fait, qu'il aurait fallu vendre.
Mais le problème, c'est que t'achètes un film avec cette jaquette. Je pense que c'est... moi, je savais un peu ce qui se trouvait dans le film, mais si tu te bases juste sur l'affiche, t'es sacré. Tu tombes de haut. Je pense que tu tombes de haut quand tu vois dans quoi tu tombes, quoi.
Oui, clairement, c'est une volonté marketing derrière.
Hein. Du coup,
aussi...
je vais rajouter un truc aussi, moi.
C'est genre toujours plus. Ouais. Non, mais je voulais rajouter le... Ouais, en fait, elle a tourné dans un format aussi presque carré. Parce qu'en fait, elle disait qu'elle voulait pas perdre ses personnages dans le décor. Et c'est vrai que l'Australie... Bon, là, c'est la Tasmanie, donc c'est une île, c'est un peu différent. Mais c'est vrai que l'Australie, c'est quand même un pays avec des énormes espaces. Et en fait, t'as jamais... Bon, t'es dans une forêt et t'as vraiment cette sensation un peu étouffante où ils sont toujours dans des bouches, dans des trucs. T'as l'impression de marcher avec eux et de galérer avec eux en poussant... Tu sais, le cheval passe pas dans les trucs, le guide les fait passer dans des endroits, ils comprennent pas pourquoi il faut monter, il faut se perdre. Et en fait, t'as ce cadre resserré.
Un super travail sur les décors.
Ouais.
D'ailleurs.
Ouais. Et ce cadre resserré, tu te fais vraiment ressentir ça et t'es sur les personnages, t'es avec eux dans le truc et tu les perds jamais dans des espaces. En fait.
Tu te sens coincé comme eux finalement.
Exactement.
Oui, et puis t'as pas de. C'est aussi un film qui te montre les trucs et qui te le fait comprendre dès le début. C'est-à-dire que, si je me souviens bien, c'était filmé en 2:35 et elle travaillait justement l'absence en fait. l'espace négatif, c'est-à-dire que tu disais bon, il peut y avoir dans ce coin des ténèbres là une menace ou il peut y avoir un truc. Alors que là, on n'est pas là-dedans en fait. Là, t'es avec l'humain dans tout ce qu'il peut avoir de déviance et tout. Et du coup, c'est vrai que t'as l'impression que tu peux pas échapper au mec, quoi. Que c'est là, et puis tu as une proximité avec eux que parfois tu n'as pas du tout envie d'avoir. Et pour revenir à la scène de viol dont parlait Marie, je pense qu'elle aurait été tournée sur un format large, tu n'aurais pas eu du tout la même sensation, quoi. C'est tout à fait effectif. C'est un choix aussi que je trouve hyper culotté et intéressant. Moi, je suis content de revoir du format carré au cinéma.
Alors pour conclure ce film, on le regarde ?
On le regarde, mais il faut savoir que c'est pas facile. Moi, je pense que je le reverrai pas avant très longtemps, parce que c'est quand même une épreuve. Enfin, en tout cas, toute cette première demi-heure, trois quarts d'heure, c'est quand même une épreuve. Puis le film est long, il dure quand même 2h20 ou 2h15, ouais. Donc c'est assez long, même si je l'ai pas trouvé si long que ça. Mais c'est un film, voilà, quand c'était fini, j'étais contente de l'avoir vu. Sur le moment, c'était moins facile, quoi.
Oui, mais et en plus, c'est 2h15, mais c'est terrible parce qu'en disant ça, on ne donne pas envie de le voir. Mais c'est 2h15, mais il n'y a pas de. Là aussi, elle est assez courageuse, quand même, parce qu'il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas de soupape, en fait. C'est-à-dire qu'elle se permet pas. Il y a parfois des petits trucs décalés qui te font sourire, des trucs comme ça et tout, mais par contre, elle y va à fond et elle y va à fond tout le temps en fait, quoi. Et elle te laisse pas, elle te lâche pas en fait sur le truc, quoi. Donc c'est vrai que c'est pour moi, je pense qu'il faut vraiment le voir, hein, vraiment. Hein. Déjà encore une fois, c'est bien qu'on le sorte. C'est dommage qu'on le voit pas en salle, mais c'est bien qu'il le sorte. C'est bien que cette meuf-là, elle existe, quoi.
Moi, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire ensuite,
aussi,
quoi.
Parce qu'il y a aussi, moi, je trouve qu'il y a une amélioration forte, en fait, entre son premier et son second film. Alors bon, après, le premier, c'était tout petit, là. C'est dans un cadre un peu plus, disons, consistant et confortable, quoi. Même si, encore une fois, le tournage a été difficile, quoi. Mais il faut le voir, il faut la soutenir et je pense que c'est quelqu'un à suivre, quoi. Moi, je suis effectivement très curieux de voir ce qu'elle va faire. Ensuite, elle veut faire un film de SF. Ce qui, là encore, montre qu'elle n'est pas là où on l'attend. C'est-à-dire qu'elle sort de ce truc-là qui fait un peu devoir de mémoire, pour sortir un grand mot. Et là, elle veut faire un truc de SF, quoi. Donc, c'est intéressant.
J'ai hâte, quoi.
Mais je crois que c'est une mini-série, ceci dit. Bon, voilà.
On en saura plus peut-être bientôt. En tout cas, si vous voulez vous faire votre propre avis et le voir, The Nightingale est déjà disponible. Hein. Il sort en DVD prochainement, mais il est déjà disponible sur OCS. À noter que le film est interdit aux moins de 16 ans. Et vous en pensez quoi? Un petit mot, une courte phrase, dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait de Possessor, le film d'horreur dystopique de Cronenberg, fils. L'équipe n'avait pas été tendre avec ce pauvre Brandon, mais nos auditeurs partagent-ils cet avis ? Alain, on est tout ouïe, que nous réserve le répondeur ?
Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous écoute toujours avec moult délices, évidemment, parce que c'est toujours un plaisir de vous entendre. Je me permets juste de réagir quelques secondes sur la dernière critique que vous avez faite, donc dernier échange autour de Possesseur de Brandon Cronenberg. Moi, je fais partie de ceux qui ont apprécié le film. Mais finalement, pour toutes les raisons que vous avez invoquées, en fait, je trouve que vous avez raison sur absolument tout. Mais justement, moi, tous les arguments que vous invoquez, en fait, m'intéressent dans la mesure où c'est ce qui a fait que j'ai apprécié le film. Alors évidemment, il y a un côté arty, un côté « je pète plus haut que j'ai le cul » chez Brandon Cronenberg, c'était déjà le cas dans Antiviral. Mais là, ce que je kiffe vraiment, c'est cet univers qui, finalement, dont les contours sont très peu définis.
Salut Capture, c'est pour parler de Possessor de Denis Villeneuve. De Brandon Cronenberg, excusez-moi, donc qui est un film qui m'a laissé complètement indifférent. Donc on voit effectivement que Cronenberg a une certaine filiation avec son père, hein, les thématiques du corps, de la sexualité, de la transformation du corps, sauf que son père faisait du cinéma de genre, du cinéma qui questionnait, du cinéma qui percutait, qui parfois choquait. C'est un peu rentre dans l'art, quoi. Et là, c'est complètement... Il est poseur, il fait des jolis plans, tout ça, mais voilà, ça va pas plus loin que ça.
Merci beaucoup d'avoir explicité mon ennui face au film. J'ai rien à ajouter. Et c'est drôle parce que dans la foulée du visionnage, j'ai lancé pour la première fois La Mouche, et j'ai des images bien, bien stockées dans ma tête, qui ont rejoint, je dirais, ma banque de données plan cinéma, qui va hanter ton subconscient pendant X années de ta vie, avec un fluide impliqué et une bonne sensation de malaise, que je n'analyse pas, mais que j'ai ressenti. Alors que Possessor, là, c'est plus de l'ordre de la nuit d'amour et lisse et sans saveur que t'oublies direct après.
J'ai trouvé que c'était un film plutôt correct. C'est pas la purge à laquelle je m'attendais. En revanche, le personnage principal a zéro charisme. Et l'intrigue traîne un peu en longueur vers la fin. Je pense que 30 minutes de moins, ça aurait été plutôt pas mal, quoi. En revanche, on voit que le fils Cronenberg lorne clairement du côté de son père, par son style un peu dérangeant et organique. Petite mention à Sean Bean qui surjoue, et au sosie de Kiss Harington qui est pas mal. Voilà, merci pour ce que vous faites, et à bientôt. Salut.
C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode.
Merci Clémence.
Merci Clémence.
Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Et puis, si ce n'est pas déjà le cas et que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez-nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats, notamment des formats vidéo. Allez, cette fois, c'est fini, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.